Bonjour Marc Fauvel.
Bonjour à tous. À la une ce matin, Gaza sur un volcan. Nouvelle journée de manifestation contre Israël et contre les États-Unis aujourd'hui. Après la mort hier de 58 Palestiniens tués par l'armée israélienne. Nous irons sur place dans un instant. La condamnation est quasi unanime dans les grandes capitales, à l'exception de Washington. Des dizaines de milliers d'étudiants privés d'examen de fin d'année. Deux universités, celle de Nanterre et de Lyon 2, renoncent à organiser des épreuves face au blocage et au risque de dérapage. Une cinquantaine d'actes de malveillance signalés hier à la SNCF. La direction de l'entreprise porte plainte, elle lance un appel au calme. La grève, la loi, on en parle dans 20 minutes avec votre invité, Nicolas, c'est la ministre des Transports.
Elisabeth Borne, dans le grand entretien du 7-9, amis auditeurs, intervenez, appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, des insultes racistes et des couteaux sortis en plein match. On vous racontera comment une rencontre de foot amateur a complètement dérapé en Alsace. La première bougie d'Édouard Philippe, un an à Matignon et une petite fête ce soir à Paris. Et puis le retour du banni de la Croisette, le réalisateur danois Lars von Trier vient présenter l'histoire d'un tueur en série.
France Inter.
58 morts, des blessés par milliers et la crainte d'un embrasement généralisé. Direction Gaza, ce matin au lendemain de la journée la plus sanglante qu'ait connue le territoire palestinien depuis 4 ans. La répression par l'armée israélienne d'une manifestation contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour Marc.
Le calme est revenu cette nuit, mais la journée qui débute s'annonce tout aussi risquée que la précédente.
Oui, on est dans la période d'incertitude. La journée sera consacrée aux morts d'hier avec les enterrements et un appel à la grève. On verra ensuite dans quel sens tourne le vent. Les factions avaient appelé à une deuxième journée de manifestation aujourd'hui. S'il y a la même intensité, il y a un risque d'escalade militaire. Si le Hamas freine cette manifestation, ce sera perçu comme l'ouverture d'un canal de dialogue. Personne ne veut la guerre, mais le Hamas cherche des avancées politiques.
58 morts et 2700 blessés hier côté palestinien. Comment expliquer ce bilan aussi lourd?
Vu d'ici, cette mise à mort annoncée est à la fois le résultat d'un encouragement du Hamas, mais elle ressemble aussi à une offrande à la cause palestinienne, la culture du martyr, le dernier pouvoir laissé à une population entièrement démunie, le meilleur moyen d'attirer enfin l'œil de la communauté internationale. Et même Ahmed était hier soir dans la foule du parking du principal hôpital à Gaza. Elle attendait des nouvelles de son fils gravement blessé à la jambe, prise dans un conflit d'intérêt familial.
On s'attendait au pire aujourd'hui. J'avais demandé à mon fils de ne pas aller à la manifestation à cause de cela. Mais il m'a dit non, j'y vais, je vais mourir en martyr. On savait très bien que les Israéliens allaient réagir violemment. Et c'est ce qui s'est passé. Mais lui, il voulait mourir en martyr.
Hier, c'était aussi le point culminant de la marche du retour lancée maintenant il y a un mois et demi, qui pour l'instant n'a rien rapporté.
Étienne Monin en direct de Gaza pour France Inter, de Paris à Berlin en passant par Moscou. La plupart des grandes capitales condamnent les violences commises par l'armée israélienne. Emmanuel Macron doit s'entretenir aujourd'hui avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Quant aux États-Unis, ils n'en démordent pas et soutiennent jusqu'au bout leur allié israélien. Pour la Maison-Blanche, il n'y a qu'un seul responsable du bain de sang, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza et qui, pour Washington, tire les ficelles de la contestation. Aux États-Unis, Isabelle Labéry.
Tout était dans le discours de Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, présent hier à l'inauguration.
Les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël parce que nous croyons, nous aussi, à la liberté, parce que nous croyons que la démocratie vaut la peine d'être défendue. Les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël parce que nous croyons, nous savons que c'est ce qu'il faut faire.
Pas de prise de distance avec la façon dont l'armée tire sur les manifestants palestiniens. La diplomatie américaine tient sa ligne. Israël a le droit de se défendre contre les islamistes qui gouvernent Gaza et manipulent la population. Au point presse de la Maison-Blanche dans la soirée, le porte-parole lâche le nom du coupable.
Nous pensons que le Hamas est responsable de ces morts tragiques. C'est lui qui, de manière cynique, a provoqué cette réaction qui a conduit à ces morts. Le Hamas est entièrement responsable de cette situation.
Les États-Unis viennent de souffler si fort sur les braises qu'on les voit mal reprendre leur rôle de médiateur dans le conflit. Mais Donald Trump n'est pas à un paradoxe près. Son administration met la dernière main à un nouveau plan de paix qu'elle soumettra en temps voulu. Washington, Isabelle Labéry, France Inter.
Et cette nuit, les États-Unis ont d'ailleurs bloqué une demande d'enquête sur ces violences qui avaient été déposées à l'ONU. Le Conseil de sécurité va se réunir dans la journée. Bernard Guetta y revient juste après ce journal. Au Proche-Orient, tout s'est donc accéléré depuis une semaine, depuis que les États-Unis ont retiré leur signature du traité sur le nucléaire iranien. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie iranienne est à Bruxelles. Il va tenter de convaincre les trois signataires européens, Allemagne, France et Grande-Bretagne, de sauver l'accord. Mais pour les Iraniens, les effets de ce retrait se font déjà sentir au quotidien. Reportage à Téhéran de nos envoyés spéciaux Laurent Groux et Franck Madvon.
Dans les allées du bazar de Tajrish, l'atmosphère est morose. Ici, dans le nord de Téhéran, la population est plutôt aisée, le marché reste animé, mais les clients dépensent moins. Le retrait américain de l'accord nucléaire a eu un effet immédiat, dit ce jeune gérant d'une boutique de téléphonie mobile, particulièrement sur le cours du dollar. Nos prix ont encore augmenté et le nombre de clients a baissé. Les Iraniens comptent sur les Européens pour sauver l'accord nucléaire, mais à l'image de cet homme, cadre dans l'industrie, ils ont peu d'espoir.
L'Europe ne va pas mécontenter les États-Unis. Tôt ou tard, l'Iran se retrouvera seul. Nous devons juste attendre pour voir quelle sera l'ampleur du désastre.
Reza Hacheminia reçoit dans son café ultramoderne qui distribue une marque italienne. Il compte ouvrir d'autres établissements et veut donc croire aux Européens.
Je leur fais confiance parce qu'ils expriment leur volonté de rester dans l'accord. Et donc, je pense que les Européens vont trouver des solutions.
Mais le milieu des affaires est pessimiste. Des entreprises étrangères qui ont investi en Iran ces dernières années préparaient déjà leur sortie du pays. Téhéran, Laurent Groux, Franck Madvon, France Inter.
Côté français, on s'organise aussi. Une soixantaine de patrons d'entreprises françaises installées en Iran seront reçus aujourd'hui à Bercy avec deux ministres pour les rassurer, celui de l'économie Bruno Le Maire et celui des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.
8h07, bloqueur d'un côté, CRS de l'autre. La fin d'année scolaire se complique encore un peu plus, Marc, dans certaines universités.
Hier, les examens n'ont pas pu se tenir à Limoges, Paris 8, Aix-Marseille. Ce matin, ce sont deux universités qui jettent l'éponge. Pas d'examen de fin d'année à Nantes et à Lyon 2. Ça concerne des dizaines de milliers d'étudiants qui, à la place, seront notés en contrôle continu ou passeront leurs examens en ligne. Il n'y avait pas d'autre choix. C'est ce que dit la présidente de l'UNEF, Lila Lebas, jointe au téléphone il y a quelques minutes par Philippe Lefébure.
Nous, c'est ce que nous souhaitions, puisque on était dans des situations où les partiels ne pouvaient pas se dérouler dans des bonnes conditions. Ça pénalisait les étudiants pour pouvoir valider leur année universitaire. Et donc, nous avions proposé, notamment à l'université de Nanterre, que les examens se déroulent via des travaux à la maison ou d'autres moyens pour faire en sorte que, effectivement, tous les jeunes puissent finir l'année universitaire dans les meilleures conditions possibles. Et encore une fois, le but n'était pas d'empêcher les étudiants de passer leurs examens. Aujourd'hui, c'est la responsabilité des universités et du gouvernement de ne pas écouter des étudiants, de ne pas ouvrir le dialogue avec les étudiants qui sont mobilisés, de ne pas prendre en compte les difficultés pour la rentrée universitaire prochaine. Et c'est ça la violence aujourd'hui du gouvernement.
Le conflit à la SNCF serait-il en train de se radicaliser? Coupure de courant, passage à niveau bloqué ou câble sectionné, une cinquantaine d'incidents et d'actes de malveillance ont été signalés hier par la direction qui a saisi la justice sans viser personne. Le numéro 2 de la SNCF, Mathias Vichra, en appelle désormais au calme.
Ce qui est sûr, c'est que depuis le début de la grève, le 3 avril, on n'avait pas eu autant d'actes. On en avait eu quelques-uns, très isolés. Là, on a déploré une cinquantaine d'actes malveillants, donc c'est effectivement un chiffre important. On en appelle surtout à la responsabilité des uns et des autres. Les négociations se poursuivent. Il va y avoir le passage au Sénat avec de nouveaux amendements proposés par les organisations syndicales qui pourront être adoptés. Il va y avoir des annonces sur la dette. Donc la discussion se poursuit. Et encore une fois, il y a encore beaucoup de choses à négocier, beaucoup de choses sur la table. Et il faudrait effectivement que les choses puissent se passer dans le calme parce que personne n'a intérêt à une radicalisation du conflit. Et quand on voit ces actes malveillants, ils nuisent à la fois à la SNCF et donc aux cheminots et ils nuisent à l'image d'une partie des grévistes et aussi aux clients, puisque quand on a plusieurs heures de retard parce qu'il y a eu tel ou tel acte malveillant, c'est quand même vraiment condamnable.
Le directeur général adjoint de la SNCF avec Maxime Debs, l'entreprise a même positionné des huissiers sur certains sites sensibles pour relever les infractions. La grève par intermittence s'est achevée il y a quelques minutes, elle reprendra jeudi soir. C'est elle qui pilotera Air France dans les mois qui viennent. Anne-Marie Couder, 68 ans, devrait être nommée ce matin à la tête de la compagnie aérienne, présidente par intérim pour un an au maximum, le temps de trouver un remplaçant définitif à Jean-Marc Janaillac, qui a démissionné après avoir perdu le référendum interne. Anne-Marie Couder a été ministre de l'Emploi d'Alain Juppé avant de travailler chez Hachette et Prestalis notamment.
8h10, voilà un anniversaire qui était censé rester discret.
Et visiblement, c'est raté. Édouard Philippe fêtera ce soir sa première année à Matignon. Il a même réservé un bar du 10e arrondissement de Paris pour un apéro d'anniversaire. 250 invités, députés, ministres et quelques amis également. Je suis là pour faire du Macron et pas du Juppé, dit ce matin Édouard Philippe dans les colonnes du Monde. Lui, qui ne manque pas une occasion de vanter sa fidélité au chef de l'État, il en a même fait sa marque de fabrique, Laurence Perron.
Loyal, c'est le mot qui revient le plus souvent lorsque le nom du Premier ministre est évoqué. Avec son style, confie l'un de ses proches, décontracté et concentré, sans égo existentiel. Pour l'opposition de gauche, c'est la loyauté, je cite, d'un clone d'Emmanuel Macron qui applique sans état d'âme la politique libérale de son parti d'origine. Aux yeux de ses ex-collègues de la droite LR, Édouard Philippe reste un traître à sa famille. Éric Ciotti au micro de Cyprien Pézeril.
Je regrette ce qu'il a fait, c'est un coup de poignard dans le dos.
A bien écouté le député des Alpes-Maritimes, le traître est désormais totalement converti.
La méthode d'Édouard Philippe, c'est de ne pas fissurer l'ego présidentiel de Jupiter.
Face à ceux qui voient les signes d'une émancipation lorsqu'il impose les 80 km/h, l'évacuation à Notre-Dame-des-Landes, gère à Trèbes ou à Paris les attaques terroristes, Gilles Legendre, député macronien, proteste.
Jamais de la vie. Jamais de la vie.
La laisse est encore trop courte, ironise un député de droite, mais il y a tout de même ces réunions mensuelles à Matignon, avec une vingtaine d'élus locaux de centre-droit, au cours desquels Édouard Philippe prend le pouls du pays, le début de quelque chose politiquement, son entourage dément, il n'a pas de jardin politique secret, des jardins privés en revanche, pleins.
Et dans cet entretien au Monde, Édouard Philippe réfute l'idée que certains ministres n'aient toujours pas trouvé leur place au gouvernement. Il n'y a pas de remaniement en vue, jure le Premier ministre. Échappera-t-il à la prison ? C'est aujourd'hui que Jérôme Cahuzac connaîtra le jugement de son deuxième procès pour fraude fiscale. Décision en début d'après-midi lors de l'audience. En février, le procureur avait réclamé 3 ans de prison ferme contre l'ancien ministre du Budget. Engagez-vous, qui disait, la police lance une grande campagne de recrutement à coups de spots télé et de messages sur les réseaux sociaux à partir d'aujourd'hui. Il y a 8000 postes à pourvoir.
Des insultes racistes et des couteaux sortis sur la pelouse.
C'était lors d'un match de foot amateur entre deux équipes alsaciennes. Il y a quelques jours, le club de Mackenheim recevait celui de Benfeld et plusieurs joueurs du club visiteur d'origine africaine ont subi insultes et menaces avant d'être poursuivis et blessés par des supporters qui ont envahi le terrain. Couteau à la main, Cécilia Arbona.
Président du club de Benfeld depuis 2 saisons, Jean-Michel Dietrich avait emmené son fils de 8 ans pour assister à un match de football censé être bon enfant. Le petit garçon a quitté le stade en larmes.
Les supporters de l'équipe donc recevante sont rentrés sur le terrain, ont brandi des couteaux, ont coursé mes joueurs. C'était vraiment ciblé que les joueurs africains. Tabassé, mais littéralement tabassé. Et j'ai entendu durant les échauffourées des propos racistes. Retourne dans ta brousse, nègre. Je vous dis honnêtement, c'était comparable à une chasse à l'homme.
Il s'est passé des choses graves, confirme Christophe Carbiener, directeur du district de football d'Alsace.
S'il devait y avoir effectivement des actes racistes, nous les condamnons d'autant plus fermement que nos sanctions prévoient d'être aggravées en cas d'actes racistes. Je me retiendrai d'en dire plus puisque l'instruction est en cours et l'objectif étant de passer de la pression, de passer de la panique.
Sur les réseaux sociaux, des partisans des deux équipes continuent de s'agresser en s'envoyant des messages enragés. Le président du club de Mackenheim, Philippe Gell, a porté plainte pour diffamation. Il préfère garder le silence après avoir reçu des menaces de mort.
L'un des joueurs attaqués souffre d'une triple fracture de la pommette, le deuxième de contusion, le troisième a eu la lèvre coupée et les trois ont déposé plainte. Près de 400 appels passés en 2 jours à Pau. Une jeune femme de 20 ans viendrait être interpellée pour avoir harcelé les services de secours. Le week-end dernier, elle a appelé 207 fois la police, 166 fois les pompiers et 21 fois le SAMU pour dénoncer en plus de fausses violences conjugales en bas de chez elle. Déjà condamnée plusieurs fois pour les mêmes faits, elle devrait être jugée après-demain en comparution immédiate.
8h14, il avait été banni il y a 7 ans. Il faisait son retour hier soir à Cannes.
Le festival a retrouvé celui qui fut l'un de ses chouchous, Lars von Trier. Palme d'or il y a 18 ans pour Dancer Monster in the Dark en 2011. Le réalisateur avait été exclu du festival pour avoir exprimé sa sympathie pour Hitler. Cette fois, il est de retour par la petite porte puisque son film The House That Jack Built n'est présenté qu'hors compétition. L'histoire d'un tueur en série incarné par Matt Dillon. Ceux qui aiment l'hémoglobine seront servis, Corinne Pellissier.
Tout est pardonné. Lars von Trier est un génie et Matt Dillon, un très grand acteur. En compétition, le film lui aurait sans doute valu un prix d'interprétation tant le personnage qu'il incarne ici fascine et rebute. Un homme obsédé par ses visions, qui ne possède aucune empathie et n'aime qu'une chose, tuer des hommes, des femmes, qu'il conserve couverts de sang dans un immense congélateur en attendant d'accomplir sa plus grande œuvre.
That was maybe a mistake.
What was maybe a mistake?
Me getting in this car with you. You might as well be a serial killer. You do kind of look like one.
Car à l'image de ses idoles, Glenn Gould, Klimt ou Gauguin, Jack est un artiste, un architecte qui dans le crime ne laisse jamais rien au hasard et soulage avec moult détails sa conscience auprès d'un personnage mystérieux qui pourrait être Dieu. 5 ans après Nymphomaniac, Lars von Trier s'initie un film gore et malsain, souvent même amoral, rempli de références à ses précédents films et qui transgresse tous les tabous de mise en scène, sans doute un avant-goût de l'enfer. À Cannes, Corinne Pellissier, France Inter.
C'est son crayon qui avait donné vie au baroudeur le plus célèbre de la bande dessinée, le dessinateur belge de la série 13, William Vance, est mort hier à Paris. Il avait 82 ans, passé notamment par le journal de Tintin. Il avait aussi dessiné les aventures de Bob Moran, Nicolas, dans les années 70.
Merci Marc Fauvel.